Dissonance.
Aujourd'hui, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous vous proposons de faire ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Ils sont de la lignée de Sébastien Faure, de Francisco Ferrer, de Janusz Korczak et de Célestin Freinet, mais aussi de tant d'autres qui ont œuvré pour la reconnaissance des droits de l'enfant et la recherche d'une organisation démocratique au sein de l'école. Ils ont revendiqué une école où chaque enfant peut s'exprimer, se responsabiliser, coopérer, expérimenter et s'ouvrir sur le monde. Dans le sud Aveyron, ils ont pratiqué la pédagogie appelée aujourd'hui la pédagogie Freinet à l'école des Costes-Gozon. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils s'appelaient Pierre et Marie-Louise Cabane. Et qui mieux pour nous parler d'eux que leur propre fille, Mariette Leclerc.
Ils désespèrent de voir, leur dit il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça.
Je pense que l'émission, on la dédiera à tes parents.
Pierre et Marie-Louise Cabane, mais ils ont une photo, ça ne se voit pas à la radio, c'est dommage. Mais voilà, l'école, quand il y avait de la neige, et ben voilà, au lieu de faire l'école, ça c'était au Coste, au lieu de faire les leçons normales, et ben voilà, on allait voir la neige, on regardait les cristaux de neige à la loupe, on faisait un bonhomme de neige. Des fois, on avait vu les éclipses de soleil, on faisait des photos, il y avait plein de choses. Voilà.
Aujourd'hui, à travers le témoignage de Mariette Leclerc, il sera question de Pierre et Marie-Louise Cabane, de leur parcours de vie en tant qu'instituteurs au Costes-Gozon. Elle nous parlera de Célestin et Élise Freinet, de Jacques Prévert, qu'elle a côtoyé dès sa plus tendre enfance. Nous entendrons la voix de Célestin Freinet ainsi que d'autres documents d'archives sonores. Aujourd'hui, il sera question de la difficulté d'offrir aux enfants une autre éducation que celle imposée par l'éducation nationale, comme en témoignent les combats menés par les époux Cabane pour tenir bon face aux menaces de leur hiérarchie. Aujourd'hui, grâce au témoignage d'une enseignante, Karine Alibert, nous verrons que la pédagogie Freinet est toujours vivante en Aveyron.
Dissonance avec
Mariette Leclerc,
qui nous parle de ses parents,
Pierre et Marie-Louise Cabane,
praticien de la pédagogie Freinet à l'école des Costes-Gozon dans le sud Aveyron dès 1946.
Sur Radio Centrafrique.
Je suis Mariette Leclerc, la fille de Pierre et Marie-Louise Cabane, qui ont passé 30 ans instituteur au Costes-Gozon. Et moi, je suis née à Centrafrique. J'ai vécu 18 ans au Costes-Gozon. Et puis après, on est venu ici quand mes parents ont eu la retraite. Mais au début, je n'ai pas vécu là beaucoup puisque j'étais à l'école. Donc, j'ai fait des écoles d'agriculture. Voilà. Quand ils se sont mariés, ils ont pris le poste miste qui était libre au Costes-Gozon. À l'époque, papa était à Melvieux et maman à Mauriac, à côté de Bouloc. Ils sont mariés, ils sont allés au Coste et ils sont restés 30 ans. Et ils se sont mis à la pédagogie Freinet qu'après la guerre, quand papa est rentré, dans les années 46-47.
On écoute un extrait du film « L'école buissonnière ». En 1949, un jeune maître arrive dans sa nouvelle école. Ce film, tourné par Jean-Paul Le Chanois, relate aussi les débuts du célèbre pédagogue que fut Célestin Freinet, interprété avec brio par Bernard Blier.
Vous allez prendre chacun un cahier.
Quel cahier?
N'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Déchirez une page blanche.
Déchirez une page de cahier?
Oui, quoi. Puis vous allez écrire tout ce que vous pensez. Vous pouvez dessiner. C'est même recommandé, surtout pour les petits. Allez, mettez-vous au travail.
Sous chaque visage, une âme. Comment la découvrir? Comment trouver le chemin qui me conduira jusqu'à elle? Serais-je capable de leur donner soif? Soif de connaissance, soif de vivre, et ensuite d'apaiser cette soif. Chacun d'eux est un problème. Ernest, le premier qui m'a conduit à l'école, en qui on devine déjà une sensibilité intérieure. Firmin, le regard fixe, les yeux vagues, à quoi pense-t-il? Qu'y a-t-il derrière son expression immobile? Jaco, le petit ruminant qui suit la course d'Emch au plafond, à quoi pourrais-je l'intéresser? Et Gaston, que sa mère menace du cabinet noir. Et Jeannot, le saumon, dont je devrais chasser la crainte et la servilité. Et les petits là-bas, bouche ouverte et doigts dans le nez, Lucien qui rêve et qui sourit, à quoi, à qui? Modeste, qui fait le singe, pensant que je ne le vois pas. Et Charles, dont il me faudra vaincre la timidité. Et André qui dort et qu'il me faudra réveiller autrement qu'avec un rappel à l'ordre. Et Michel, l'artiste qui dessine, Monsieur Arnaud est en colère, et sans doute le portrait de son nouveau maître. Et là-bas, Albert, presque un homme. Comment faut-il lui parler?
J'étais dans la classe de mes parents, de suite très jeune même, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de maternelle, donc les enfants étaient de suite dans la classe de maman, et on était tous ensemble. Donc ça fait que des 3 ans, on commençait à apprendre à lire, à écrire, à compter, parce qu'on était avec les autres. Et donc j'ai vécu toujours tout le temps la pédagogie Freinet avec eux. Et en plus, papa Freinet a demandé à mon père de me suivre, de faire mes profils vitaux à évolution, dessin, mathématiques, écriture et lecture aussi. Voilà. Mais là, j'ai tout donné, les documents aux amis de Freinet, donc je n'ai plus rien ici.
C'était quoi qui changeait dans une classe Freinet?
Mais du moment où je me souviens, hein, parce que les débuts je ne me souviens pas, mais c'était l'ambiance qu'il y avait. Au Coste-Causon, c'était une école rurale. J'avais des copains qui faisaient 7 km le matin pour venir à l'école, et pas un chemin facile parce qu'ils étaient dans la vallée, il fallait qu'ils montent de dessous de Melvieu jusqu'au Coste, hiver comme été. Donc ils traversaient les bois, ils traversaient les ruisseaux. Donc souvent ils trouvaient un animal mort, une fleur, alors ils l'amenaient ou ils avaient vu quelque chose. Donc dès qu'ils arrivaient, même ceux qui étaient sur le plateau des Costes, ils avaient vu quelque chose, ou il s'était passé quelque chose soit à la bergerie, les agneaux étaient nés, etc. Donc on commençait par parler des événements de la veille, de la nuit, du matin. Et puis on partait là-dessus, c'était texte libre, on sortait les documents, s'il y avait des documents qui pouvaient aider à comprendre les choses. S'il y avait un animal ou un oiseau, tout le monde le dessinait. Et puis on faisait après des textes libres, on se regroupait, ou c'est celui qui avait trouvé, ou les autres qui se regroupaient. Et c'était parti comme ça. Il n'y avait pas de... C'était pas rigide comme une école normale où le matin, à l'époque, il y avait les leçons de morale.
Et donc papa ne faisait pas de leçons de morale.
Voilà, la morale, elle se vivait, elle était toujours... On ne faisait pas la leçon comme on écrit au tableau, la morale du jour, et puis... Il y avait toujours une morale. Si c'était un oiseau qui avait été tué par un chasseur, il y avait une morale sur le fait qu'il fallait préserver la nature, tout ça. Si c'était un événement aussi qu'on ait pu entendre à la radio, parce qu'il n'y avait pas la télé à l'époque, hein. Il n'y avait que la radio, ça pouvait arriver qu'il y ait des événements assez graves qui fasse qu'on parle de l'événement, qu'on parle pourquoi, etc. Ça pouvait, si c'était un événement européen ou mondial, ça pouvait amener à parler de l'histoire, de la géographie.
7h30 en chiffres rouges, illumine la nuit, j'entends rêve-toi et bouge. Aujourd'hui c'est lundi, pour remuer les fesses, il me faut serrer les dents, conjurer les menaces d'une journée sans écran. Je trouve pas la deuxième chaussette, en plus on a piscine. J'ai coincé ma baguette et brûlé mes tartines. Si je simulais un rhume pour m'acquitter de ce fardeau, le temps qu'on a mis une encrue dans mon tout petit sac à dos. J'ai perdu mes pinceaux, oublié la table de 8. Dehors il pleut à saut, j'ai le blues au zénith. On devrait payer les bambins qui vont à l'école à pied, rayer les lundis matins du calendrier.
d'écolier, c'est pas ce qu'on croit. Joie, liberté, rire et nirvana. La vie d'écolier, non, c'est pas ça. Je me débine et me confonds en louange. Pour éviter le gros Kevin et ses tartes aux phalanges.
La cantine est un cauchemar, celle-ci file Bruxelles à la rire.
C'est un laboratoire et nous sommes les cobayes.
C'est un et de nouveaux bourreaux pour nous tenir en laisse.
On fait leur entrée au tableau,
Pythagore et
Thalès.
Qu'ai-je donc fait de mal pour qu'on me mette en tête?
Conjonction pronominale,
circonstancielle, épithète.
Sachant qu'une baignoire se remplit en 800 secondes et demie,
qu'il faut 120,3 cerises pour un bon clafoutis.
Que le train A
croise le train B
à 6h10
en gare de Rennes,
en déduire la pointure du coiffeur du fils du capitaine.
Ça nous fait les bonnes journées, tu vois. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit, non.
Joie, liberté, rire et nirvana.
La vie d'écolier, non, c'est pas ça. Moi je pense à la mer, au silence, ne rien faire. Les vacances, prendre l'air, l'insouciance, l'éphémère.
Mental, futur antérieur, champ lexical, dénominateur.
Photosynthèse, antiquité, récitation, renaissance. Triangle, rectangle, trapèze, participe, passé, cap de France.
Homme de Néandertal, infinitif et règle de Troie. Mérovingien, capital,
transitif et chef, gaulois.
Rendement de François 1er,
Union Européenne.
Pourcentage plus que parfait,
éducation citoyenne.
Y'a de quoi rester quoi quand j'entends ma famille
clamer que je vis là
les plus beaux moments de ma vie.
Ça nous fait des bonnes journées, tu vois. Là. Vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit. Joie, liberté, rire et nirvana. La vie d'écolier, non, c'est pas ça.
Voilà les enfants, tous en ligne, soyez sages.
Oh, puis après tout, on s'en fout.
Voilà, faites ce que vous voulez. Faites des vos cahiers en l'air. Tirez-vous les cheveux. Criez le plus fort que vous pouvez.
Dissonance avec
Mariette Leclerc
qui nous parle de ses parents,
Pierre et Marie-Louise Cabanne,
praticien de la pédagogie Freinet à l'école des Costes-Gozon dans le sud Aveyron dès 1946.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Moi, j'ai pas connu les débuts de papa et de maman à l'école Freinet quand ils ont débuté, je m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens à partir des années 50-51, quand j'ai eu 2 ans ou 3 ans. Encore, c'est loin. Mmh. Mais quand j'étais à l'école maternelle, l'école maternelle, ce qu'on appelait école maternelle, où c'était de... qu'on pouvait rentrer, c'était 3 ans, jusqu'à ce qu'on passe dans les 2 grandes classes, d'un côté les filles, d'un côté les garçons, puisqu'il y avait 3 classes, pour préparer certificat d'études. On apprenait quand même à lire, on apprenait à écrire, comme dans toutes les écoles, mais c'était, vu qu'on était tous ensemble, les petits, s'il y avait quelqu'un qui ceux qui ne s'intéressaient pas, ils ne s'intéressaient pas, les petits, par rapport à ceux qui avaient 7 ans ou 8 ans. Nous, les petits, si on voulait commencer à écrire, on commençait à écrire, on commençait à parler, on écoutait, on participait. On pouvait participer. Il n'y avait pas de barrière comme je trouve qu'il y a maintenant. Les petits, on les met dans des crèches, on les met dans des maternelles, c'est par âge, c'est par... on pouvait s'ouvrir. Celui qui pouvait suivre, il s'ouvrait. Moi, il n'y avait pas que moi. Tous mes copains, mes copines, c'était pareil. Celui qui suivait, il suivait. Il s'ouvrait à son rythme. Et puis, les parents, ça allait très bien. Il y avait les résultats au certificat d'études, c'est tout ce qu'ils demandaient. Hein. Les plus anciens qu'il y a eu après, quand papa est rentré après la guerre, Ils ont eu leur certificat d'études, ils ont eu, après ils ont pu aller faire des... C'était pas les cursus qu'il y a maintenant avec la sixième et tout ça. Ils étaient heureux d'avoir certificat d'études et après ils entraient soit en apprentissage, soit ils allaient dans des écoles pour faire agriculteur dans les maisons familiales, ou alors ils faisaient des CAP. Il y en a plein qui sont rentrés à la poste, SNCF. Les gens étaient contents de les gens étaient contents. Moi, j'ai jamais entendu dire. Bon, il y avait deux, trois familles qui n'étaient pas. Qui, de toute façon, n'étaient pas. Même avant, mes parents n'étaient pas les élèves à l'école publique, on mettait les élèves à l'école privée. En pension, on les mettait à la Cazotte ou à Sainte-Afrique ou ailleurs, parce que c'était des familles qui se disaient. C'était pas assez bien une école publique.
Dans la revue L'éducateur prolétarien, Célestin Freinet écrit en 1935
« L'école a dressé des écoliers et c'est à dessein qu'elle ne prépare pas des hommes parce que former des personnalités sincères serait lutter contre l'exploitation capitaliste et que vous ne pouvez pas demander au capitalisme, qui veut bien vous laisser votre école, de saper ainsi sa propre autorité et sa propre domination. »
Donc il y avait les leçons à l'intérieur quand on trouvait un oiseau, une plante qui était ramenée. Puis après, je ne sais pas si c'était une fois par semaine, ça dépendait du temps, ça dépendait de beaucoup de choses. On allait faire des classes promenades, et là, mais c'était des leçons de choses. Classes promenades, on voyait la nature, on voyait les agriculteurs, les parents des élèves qui travaillaient, s'ils travaillaient, on expliquait, il n'y avait pas beaucoup de tracteurs à l'époque, c'était avec les bœufs, les chevaux, donc il y avait toujours des explications, les parents qui labouraient ou qui étaient en train de travailler expliquaient, les leçons de botanique, ça se faisait dehors, et puis il y avait l'histoire aussi. Bon, au début, au Costegozon, papa ne connaissait pas grand-chose sur l'histoire des Costegozon, à part le château. Mais même avant qu'ils pratiquent l'école Freinet, j'ai des photos où les trois instituteurs, papa, maman et mademoiselle Arcier, en promenade au Cos, c'était dans les années 46-49, ils allaient voir le château. On avait un château, donc quand on apprenait le Moyen-Âge, on ne le faisait pas à l'école, on allait voir le château de Gozon.
En 1958, à Neuchâtel, en Suisse, Célestin Freinet expose à des parents et à des enseignants les grandes lignes directrices de sa pédagogie. Ici, il va nous parler de sa démarche coopérative.
Et ce que nous apportons de nouveau dans la pédagogie, ce que nous avons réalisé peut-être de plus surprenant, c'est que nous avons constitué une coopérative d'instituteurs, techniciens, qui se réunissent, qui publient des journaux et des revues pour employer ma formule habituelle, pour verser dans le creuset coopératif toutes nos recherches, toutes nos trouvailles, nos échecs et nos réussites. Alors nous faisons progresser la pédagogie parce que nous avons ainsi mis en commun toutes nos recherches. Et nous avons, chemin faisant, reconsidéré bien les choses. Parce que vous savez, l'école vit sur des traditions qui datent d'au moins 300 ou 400 ans. Du temps où les écoles commençaient, tenues par des moines, qui en ce temps-là faisaient peut-être très bien leur classe, mais qui la faisaient pour une partie choisie de la population et pas pour la masse comme celle à laquelle on s'adresse de nos jours. Nous vivons donc, l'école vit donc sur des traditions plus que centenaires, et ce sont ces traditions que nous avons senti la nécessité de bouleverser. Ah, sûrement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, vous savez, qui que ce soit, lorsqu'on veut changer quelque chose, on est toujours mal accueilli. Je ne sais que l'humoriste qui disait, allez en France une nuit, essayez de monter à Dijon, par exemple, dans le train qui vient de Paris, quand tout le monde est bien allongé sur les banquettes, et puis vous ouvrez toutes les portes pour voir s'il n'y aurait pas une place, les gens sont étendus, finalement, vous entrez dans un et vous en poussez un, enfin, faites-moi de la place. Vous verrez les bénédictions qu'on vous envoie. Hein? Du moment que vous dérangez quelqu'un, vous n'êtes jamais bien accueilli. Nous sommes de cela. Mais nous avons fait du travail.
Tous les ans, il y avait un congrès École Freinet qui se faisait. Et donc, mes parents, on y allait. Je suivais. Et dès le début, on a commencé en 51. Et j'ai noté les dates un peu. En 51, on est allé à Montpellier. Donc là, on faisait, eux, ils travaillaient. Nous, on suivait, on écoutait, on jouait avec les copains. Enfin, moi, j'avais tout, on était toute une bande de garçons, surtout de garçons, pas beaucoup de filles. Mais bon, on écoutait, ou alors il y avait Maman Élise qui faisait quelques...
Maman Élise, c'est Élise Freinet.
Maman Élise est Élise Freinet. Et avec sa fille Baloulette, elle nous occupait à faire des dessins quand il y en avait, qu'on en avait un peu assez de discours. Et puis on faisait des sorties. Il y avait toujours quelques sorties. Et nous, chaque fois, on était invités. On avait des amis instituteurs qui nous amenaient, on allait passer quelques jours chez eux. Donc, à Montpellier, je ne me souviens pas. Aix-en-Provence, alors quand on est allé à Aix-en-Provence, on avait des amis qui habitaient le Haut-Var. Et c'était une région où il y avait beaucoup de sites gallo-romains. Donc, ils nous ont montré ce que c'était, une tuile romaine, tout ça. On en a même ramené. Et puis, quand on est revenu au Coste, papa l'a montré à mes copains, tout ça, en classe, en expliquant ce que c'était, comment c'était fait. Donc, on a pris des documents, les BT ou d'autres documents, même des livres normaux d'école, où on pouvait parler de la vie des Romains et tout ça. Et après, trois jours après, on avait des tas de tuiles dans la classe. Parce que les copains, ils avaient trouvé, ils avaient vu, voilà, monsieur, on a trouvé ça là. Donc c'était très riche. Moi la passion de l'histoire c'était pas les dates, je n'ai jamais su aucune quoi. Il fallait apprendre pour le certificat d'études, mais c'était trop dur. Et puis bon, mais c'était l'histoire parce que papa, bon je parle de papa parce que maman elle avait que jusqu'à je sais pas 7 ans ou 8 ans puis après c'était papa et donc c'était l'histoire. La vraie histoire, mais la vraie, pas celle qu'il y a trop dans les livres. Puis surtout, c'est-à-dire qu'avec les BT, on recevait donc toutes les publications de l'école Freinet. Donc chaque classe en France ou ailleurs, ils avaient fait sur le Moyen-Âge, sur les... Donc on prenait ces documents pour faire... Puis il y avait d'autres documents, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain et prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire ce cinéma? Fillette, allons, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons, bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, il ne faut pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10, 20 années de moins, pour que je te dise je t'aime.
Dissonance avec
Mariette Leclerc
qui nous parle de ses parents
Pierre et Marie-Louise Cabanne,
praticien de la pédagogie Freinet à l'école des Costes-Gozon dans le sud Aveyron dès 1946
sur Radio Sainte-Afrique.
Alors, donc, on avait tout ce qui était publication Freinet qui allait pour les petits de l'enfantine Donc l'Écosse en avait fait une, hein, on avait fait, l'Écosse en avait fait notre vie, et c'était sur la vie de tous les jours. Chaque élève avait fait des dessins, avait fait un texte, et ça a été publié. Après, il y avait la bibliothèque du travail, c'était plus sérieux. Il y avait, on faisait des poèmes, et puis après, on échangeait avec toutes les classes qui faisaient l'école Freinet en France, à la Martinique, au Cameroun, en Tunisie, en Suisse. Enfin, il y en avait un petit peu partout, mais c'était intéressant parce que, par exemple, on leur envoyait des colis de ce qu'il y avait dans l'Aveyron et dans notre coin, mais après, ceux du Cameroun ou de la Martinique, ils nous envoyaient des produits qui pouvaient se transporter, parce que c'était long les voyages à l'époque, qui se transportait par bateau, et quand on ouvrait le colis, quand le colis arrivait, on ouvrait le colis. Ce jour-là, on faisait que ouvrir le colis et voir ce qu'il y avait dedans.
Écoutons une archive de 1958. Il s'agit d'un enregistrement de Pierre Guérin dans sa classe située dans l'Aube. Ce jour-là, il enregistre les réactions des écoliers lors de l'arrivée d'un colis de coquillages, d'oursins, de coraux en provenance d'une classe des Nouvelles Hébrides.
Monsieur Leroy, école primaire et cours complémentaires publics de Port-Villon, Nouvelles Hébrides. Contenu, coquillages, oursins, coraux pour musée scolaire.
On va demander à quelqu'un de prendre de marteau le matériel et de l'ouvrir, d'ouvrir la caisse.
Attention,
il y a de la rondule.
Attention, il y a quelque chose dans le cas.
Où est les chevaux?
Tiens, celui-là, c'est du corail.
Oula, doucement.
Tu veux une belle porcelaine, hein?
Monsieur, c'est les oursins.
Tu vois? Tiens, les petits.
Oula, encore un coraux.
C'était du travail parce que chaque chose, si c'était des plantes ou des graines, on cherchait dans les livres de la bibliothèque ce que c'était, à quoi ça correspondait, des graines de cacahuètes, comment était la plante, comment ça se cultivait. Pour le Cameroun, c'était pareil, et nous, on envoyait des choses aussi. Et on allait planter les cacahuètes dans le jardin, on a ramassé des cacahuètes au Costa-Gouzon. Ils nous avaient envoyé des ignames du Cameroun, on les a plantés, on a gardé la plante d'ignames des années. Chaque fois, après, on allait déterrer pour voir comment c'était. C'était vivant.
Oui, c'était une pédagogie vivante, une pédagogie très moderne, parce qu'actuellement, dans nos jours, il y a des écoles qui sont loin de tout ça. Mais il y avait aussi les voyages scolaires. Vous étiez précurseur dans ce domaine-là.
On ne le faisait pas trop parce que les voyages étaient chers. Mais entre classes, on pouvait se rencontrer dans les classes qui n'étaient pas loin. Tournemire, Salle-Curant, à la rigueur. Ou alors, ce qu'on faisait une fois par an, à l'école, on faisait une exposition des objets qui avaient été faits dans l'année par les élèves. Donc là, des fois, il y avait possibilité que quelques élèves puissent venir. Mais il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a maintenant. Les gens n'avaient pas de voiture, ça coûtait cher. Donc on ne se rencontrait pas trop en échange, en visite. On faisait des voyages scolaires une fois par an. Mais c'était que la classe. Hein. La classe, on allait comme on a fait les caves de Roquefort, la laiterie et tout ça, les Gorges du Tard. Puis ça faisait l'objet d'une BT, ou alors ça pouvait faire l'objet que d'un numéro du 80. Ça faisait un numéro spécial du 80.
Donc tes parents n'étaient pas isolés en Aveyron. Tu te parlais de l'école de Tournemire, de l'école de Salle-Curant, il y en avait beaucoup dans le bassin Houillé.
Il y avait Prévenquière avec monsieur et madame Pelat. À Salle-Curant, il y en avait, mais je ne me souviens plus le nom. Il y en avait vers Baraqueville, il y en avait vers le Villefranche-de-Pana. Vers Mont-Laure, je me souviens pas. c'était pas, il n'y avait pas trop dans le coin ici.
Voilà, donc ils avaient besoin quand même d'être, de se retrouver au niveau départemental parce qu'il fallait être solidaire, parce que j'imagine que l'administration ne devait pas tellement être contente de ce genre de pédagogie, et aussi au niveau national.
À 51, ça a été le 7e congrès de l'école moderne française. Et à partir de 55, ça a été les congrès internationaux. Il y a une différence à faire. Moi, toute petite, je ne faisais pas la différence. Et il y avait eu aussi un congrès de l'imprimerie à Tours. Mais alors là, papa n'en faisait pas partie parce que c'était en 1927, l'imprimerie à l'école. C'était des choses énormes. Et puis, on partait par le train. Avec des valises de dessins, ça c'était à La Rochelle, donc on prenait du matériel, on prenait des tapis, ça c'est Mademoiselle Arcier là qui est en train de présenter une exposition à Chalon-sur-Saône, ça c'était on prenait les dessins, on prenait des ouvrages, des objets qui avaient été faits. Ça c'est Baba qui est en train d'exposer, de parler des dessins, de suivi des dessins à La Rochelle. Mais on pouvait prendre des tapis, on prenait... C'est énorme. On prenait des choses comme ça. Alors c'était fait d'après des dessins. Bon, des dessins, ça c'était les miens, mais c'était les dessins de tous les enfants des écoles. On faisait des dessins et... Voilà. Et puis c'était des essais expression libre. On ne faisait pas des. On n'avait pas des. Moi ça m'énerve quand je vois on leur donne des livres et il faut qu'ils refassent le dessin, voilà. Tout ça. Alors ça non. Ça, c'est de l'expression libre. Papa me donne. Ou même il n'y avait pas que papa, parce que là c'était sur les photos, on voit des choses, des meubles. On faisait des petits meubles pour qu'on vendait, qu'on tirait au sort dans les expositions, et au Coste ou ailleurs. Et c'était les élèves qui faisaient les dessins avec la pyrogravure, avec du brou de noix, on les peignait. C'était pas le modèle. On n'obligeait pas les gamins à faire un dessin déjà fait. Ça, moi, ça ne me plaît pas. On peut aussi, à l'école Fréry, il y avait... papa, l'école Fréry étant en Vence, on faisait... papa Fréry avait de bons rapports avec les petits de Valoris. Et donc, on a fait beaucoup de... d'objets, assiettes, etc., décorés avec des enfants des écoles, pas que de Vence, souvent peut-être c'était les enfants des instituteurs qui venaient à Vence, parce que c'était plus facile, mais je pense pas, parce que comme chaque instituteur, ils envoyaient des dessins à Élise Fréné pour faire des livres, donc ils s'en servaient aussi pour faire les objets. Dessiner les objets.
Puis passer tous les étés ou fréquemment une partie des étés.
Je n'allais pas à Vence très souvent avec maman, elle n'aimait pas trop ça. C'était quand même assez. C'était le début, c'était un peu naturiste à l'époque, les gamins, on vivait tout nu. Ça, c'était pas trop. Puis c'était. Non, on n'y allait pas souvent. On y est allé une fois ou peut-être deux. Puis papa, lui, retournait tous les ans pour le travail, mais une fois, oui, j'y suis allée, et puis bon, ben là, c'est vrai qu'on a rencontré les copains, alors les copains ont joué avec, c'était surtout ça, et puis bon, c'était sur la photo, il y a papa, je suis dans les bras de papa Fréné, et puis il y a un monsieur qui est, il y avait Jacques Préfère sur une, et sur il y avait aussi un monsieur qui était tunisien, je ne suis pas arrivée à retrouver son nom, qui je crois était instituteur et devenu je crois inspecteur, et plus tard quand il y a eu la République, et je crois qu'il est devenu un des ministres de la Première République. Donc, je veux dire, l'école Freinet, même être ministre. Puis, il y a Jacques Prévert, là. Bon, alors, quand on était avec Jacques Prévert, c'était Jacques Prévert. Il nous racontait ses poèmes, tout ça. Mais j'ai pas trop de souvenirs. J'étais petite, quand même. J'avais que 3 ou 4 ans.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. Désunis.
Dissonance avec
Mariette Leclerc
qui nous parle de ses parents
Pierre et Marie-Louise Cabane,
praticien de la pédagogie Freinet à l'école des Costes-Gozon dans le sud d'Aveyron dès 1946.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Donc c'était l'école à Saint-Paul-de-Vence, l'école donc n'appartenait pas à l'éducation nationale, c'était une école donc privée mais pas au sens religieux du terme.
Oui, c'est une école privée comme
Montessori,
voilà. Ouais. Et il avait créé, papa Freinet l'avait créé, il y avait beaucoup de difficultés quand même, parce que lui, il y a eu beaucoup de difficultés dans son parcours dans les Alpes-Maritimes. C'est. Et il vivait là-bas, on vivait quand même un peu en communauté. Et ça, c'était pas trop notre truc.
C'était quand même des instituteurs militants, parce qu'ils passaient leur week-end à se rencontrer, leurs vacances à travailler ensemble, et le reste de l'année, ils travaillaient en classe. C'était une passion, c'était...
Les instituteurs Freinet, oui, il fallait que ce soit une passion, parce que ça demandait beaucoup de travail, comme les autres instituteurs, mais plus.
Toujours dans la revue L'éducateur prolétarien, Célestin Freinet écrit en 1935.
Effectivement, l'école actuelle a été créée par le capitalisme. Elle est entretenue, si peu hélas, pour vous instruire d'abord. et non pas vous instruire dans le sens humain et philosophique qui serait de vous aider à connaître, dans ses plus intimes manifestations, la vie que vous devriez dominer, mais vous instruire seulement au point de vue technique, afin de mieux vous utiliser économiquement, de tirer de vous un meilleur rendement, tout comme on apprend aux bœufs à labourer ou aux poulains, naturellement si fiers et si indépendants, à accepter le collier et à traîner la voiture en obéissant aux morts impératifs.
Et tu parlais des difficultés qu'avait rencontrées Célestin Freinet, mais tes parents aussi, ton papa et ta maman, en ont rencontré de nombreuses au Costocoson. Est-ce que tu peux les évoquer? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu?
Mais ça, les difficultés de mes parents sont venues du fait qu'un inspecteur primaire a changé, qui est arrivé en Aveyron, dans le sud Aveyron, venait d'une île française, pas très loin en Méditerranée, pour pas dire la Corse, c'est pas grave, il est décédé donc. Et c'était une personne, disons bornée, obtuse pour moi. Moi j'en ai gardé ce souvenir, qui n'acceptait pas que quelqu'un ne marche pas dans le droit chemin, qui n'acceptait pas qu'on puisse vivre autrement et apprendre par d'autres moyens que les livres. Il y avait des livres à l'époque qui étaient quand même un peu bébêtes, un peu méchants. Hein. C'était pas méchant, mais ça montrait la vie sous un angle que... Vu que on n'avait pas les moyens internet, il n'y avait pas la télévision et tout ça, les gens des campagnes, ils étaient obligés d'accepter ce qu'il y avait dans les livres. Et c'est pas évident. Pour moi, les livres, c'est... Ce qui était recommandé, c'était pas toujours dans les classes normales, des livres bien, bien ouverts. Ils étaient un peu dirigés. Hein. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Donc, il a cherché des moyens pour faire partir mes parents. Il a passé toutes les familles et il a eu très peu de retours négatifs dans les habitants des Costes-Gozon, dans les familles qui étaient au Costes-Gozon à cette époque-là. C'était dans les années 56-57, donc c'était assez tardif. Enfin, c'est tardif, même peut-être plus loin. Donc, en plus, il y avait on ne peut pas dire, c'est un triumvirat entre... dans la commune, le curé, les maires et les instituteurs qui s'entendaient très bien. Pourtant, ils n'étaient pas du même bord, mais c'était tous les trois des hommes intelligents et ouverts. Donc, l'inspecteur a essayé de voir si, par le biais du maire, il pouvait faire du mal à l'instituteur, il n'y est pas arrivé. Par le biais de l'évêché, je crois que ça a un peu marché, puisque... Le bon curé des Costes, il a été obligé d'aller partir ailleurs. Et puis, l'instituteur, il n'y est pas arrivé. Alors, il a fait des campagnes, il passait toutes les maisons pour savoir si les gens étaient contents. Les gens disent, mais oui, mon fils, il est postier, il est SNCF, il est l'homme. On n'a pas à se plaindre, on est ravis. Et il y a eu aussi la fermeture de la troisième classe. Il n'y a eu que deux classes. Et Mademoiselle Arcier est partie à Tournemire. Et puis, bon, bah, ça a été tracasserie continuelle. Ils venaient visite, inspection sur inspection. Et puis toujours essayer de trouver la petite faille, soit chez mon père, soit chez ma mère. Il suffisait que... En plus, quand on était à l'école... Mes copines, elles étaient impressionnées. Ils savaient qu'on sentait tous qu'il se passait quelque chose. Donc, ben, c'est là qu'on ne savait pas répondre ou qu'il y avait une gaffe qui était faite. Quoi. Donc, ça, c'était des mauvais points que l'inspecteur montait en mayonnaise. Et puis, ça a été mal vécu par tout le monde. Et surtout par ma mère, et puis moi aussi, je n'y vais pas très bien, parce que après l'inspection dans la classe, le soir, il restait des fois très tard, et moi, quand la classe était finie, je savais très bien, on n'avait pas besoin de me le dire, quand il était là, il fallait que j'aille chez la voisine, tu vas chez maman Annie et puis on viendra te chercher. Et puis c'était des fois tard qu'on venait me chercher. Mais heureusement, on avait quand même plus de soutien. La population d'Écosse soutenait quand même plus leurs instituteurs que ce que... C'était 80% de la population qui était pour. Et puis, même là, moi, je vois, quand je vois au Coste, quand je vais au Coste, j'ai fait une conférence sur le château de Gozon, mais j'avais pratiquement tous les Costes à la conférence. Tu te souviens pas, c'était... Bon, je pensais pas, parce que j'ai eu du mal à retourner au Coste Gozon après, quand on a déménagé. C'est pas l'inspecteur qui nous a fait partir, on est parti quand même par en vue de la retraite. Mais je sais pas, j'avais peur. Je n'osais pas. Et je vois qu'il y a un très bon souvenir qui reste au Coste Gozon. C'est pas... Et puis bon, finalement, ça s'est terminé qu'il y a eu un inspecteur général intelligent qui est venu faire une inspection, parce qu'il y avait trois inspections, inspecteur primaire, inspecteur d'académie et inspecteur général. Donc l'inspecteur d'académie, lui, il savait pas trop comment faire. Et puis... je crois que c'est mes parents qui ont demandé d'avoir une inspection par l'inspecteur général. Et à ce moment-là, il est venu. Et puis le verdict a dit que bon, il n'y a pas de raison, que les résultats à l'école étaient bons, que je ne sais pas exactement tout. Ça s'est fini seulement par un déclassement. Papa n'a plus été directeur. Et c'est maman qui l'a été, et puis il y a eu un déclassement, je crois, au niveau salaire, pas salaire, au niveau de l'avancement. Bon, ben, ça n'a pas été, mais ça a fait beaucoup du mal. Au niveau santé, ça a été, je pense que les années de santé que maman a eues après, ça a dû bien venir du fameux inspecteur. Mais mes parents, ils ont tenu bon, avec l'aide du maire, des familles qui étaient là, des instituteurs qui étaient autour, parce qu'il y a eu quelques autres instituteurs aussi qui ont été malmenés, peut-être pas à ce point-là, mais quand même. Et puis, ils ont tenu jusqu'à la retraite. Papa est parti à la retraite normalement, sans avancer, et maman aussi. Et voilà, il n'y a pas eu de... C'est pareil, hein. On a tenu bon, on est coriace.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe à, je suis pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avait l'air d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qui tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en supprimant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Dans une lettre de 1935 adressée aux parents, voici ce qu'a écrit Célestin Freinet.
Et pour leur donner cette instruction, à laquelle, avec raison, vous accordez tant de prix, on vous déforme votre enfant. Par une discipline autoritaire impitoyable, on use ses forces vitales, tendues désespérément vers la création et l'avenir. On l'habitue à souffrir, à supporter passivement, à accepter ce qui est, on brise définitivement son élan. Et quand cette besogne a été menée à bien, pour notre malheur à tous, on jette dans la vie des enfants ou des adolescents coupés de l'activité sociale, tout juste capables d'œuvrer passivement, comme des bêtes de somme, de croire tous les bobards des journaux ou de la radio, d'aller voter ou de partir à la guerre.
En France et dans nombre de pays dans le monde, la pédagogie Freinet est toujours vivante. En Aveyron, une structure départementale regroupe les enseignants qui utilisent la pédagogie Freinet.
Dissonance avec Karina Libert sur Radio Sainte-Afrique.
Bonjour, je m'appelle Karina Libert. Je fais partie de l'association Le GAEM, groupe aveyronnais de l'école moderne. C'est un groupe départemental qui se réunit autour de la pédagogie Freinet, donc en lien avec l'association nationale qui s'appelle l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne. Nous nous réunissons entre une petite dizaine d'enseignants du département une fois par période scolaire, dans une classe de l'une ou de l'autre, pour échanger sur nos pratiques. Donc ça nous permet de partager, d'avoir une écoute, de partager les mêmes valeurs et d'être un cheminement pour notre pédagogie. Il y a pratiquement un groupe départemental dans tous les départements de France. Alors les valeurs de la pédagogie Freinet, elles tournent autour de l'enfant puisque c'est l'enfant qui est au centre de l'école, mais l'enfant qui est une personne et donc qui n'est pas résumé à un élève. On prend l'enfant dans sa globalité et notre façon de travailler, c'est d'être au plus proche de la vie. Donc de créer le maximum de liens avec le monde extérieur et de mettre les enfants en situation réelle de production ou d'échange. On essaie de faire en sorte que les enfants soient auteurs de ce qu'ils font. On privilégie tous les moments d'expression et de création, de présentation. Et la classe fonctionne de façon coopérative avec chaque semaine une réunion de coopérative qui gère les projets de la classe, qui régule aussi les conflits s'il y en a et qui propose aussi des moments de félicitations. Donc c'est un organe assez central dans la pédagogie Freinet. Il y a aussi le texte libre qui tient une place très importante. Tout l'apprentissage de la langue, de la lecture, de l'écriture se fait autour du texte libre. C'est-à-dire qu'en méthode naturelle de lire-écrire, c'est l'écrit qui vient en premier. Et les enfants écrivent dès la maternelle, d'abord en dictée à l'adulte, et puis petit à petit, ils apprennent à écrire eux-mêmes. Ce qui fait qu'en fait, les textes ont un intérêt pour eux, ils apprennent à exprimer leurs pensées, à la structurer, à exprimer leurs émotions. Et on met tout ça en regard, évidemment, avec la littérature infantile ou des poèmes d'auteurs. Ce n'est pas non plus un repli complètement sur les productions des enfants, mais l'enfant est au centre.
Et puisque tu es, toi, Karine, enseignante depuis de longues dates de cette pédagogie Freinet, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ton quotidien, dans la classe ?
Ça m'apporte du sens à ce que je fais, parce que... Je pense que je ne pourrais pas exercer ce métier en dehors de la pédagogie Freinet. Je trouve que l'école en dehors de la pédagogie Freinet ou d'autres pédagogies alternatives manque vraiment beaucoup de sens. Et pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment important que les enfants sachent pourquoi ils sont là à l'école, qu'ils soient mus par avoir leurs projets, leurs désirs, qu'ils puissent s'exprimer, dire ce qu'ils pensent, exprimer leur point de vue, apprendre à les confronter, apprendre à vivre ensemble, apprendre à coopérer et essayer d'éviter d'entrer en compétition et comprendre que c'est plutôt la coopération qui va nous donner de la force.
Et comme on l'a vu dans l'émission avec les époux Cabanes, pratiquer cette pédagogie, ça a été un combat dans les années 50. Est-ce que c'est toujours un combat dans les années 2010?
Ben, on va dire que oui, ça dépend un peu aussi des régions parce qu'on est quand même dans un fonctionnement départemental, l'éducation nationale. Mais c'est quand même pas facile dès qu'on n'est pas dans la norme. Donc on n'a pas toujours la reconnaissance de notre institution. On n'a pas de facilité non plus pour se regrouper entre enseignants qui partagent les mêmes valeurs. Et du coup, on est dispersé dans des écoles à droite et à gauche. C'est pas, on n'offre pas aux parents la possibilité de choisir cette pédagogie-là pour leurs enfants. Donc ça, c'est un peu dommage. Il reste beaucoup de chemin à faire, même si les nouveaux programmes vont bien dans le sens de la pédagogie freinée. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour essayer de développer notre façon de travailler avec les élèves. Malgré tout, il y a quand même des enseignants qui ne se revendiquent pas forcément de la pédagogie freinée, mais qui quand même sont dans cette façon de penser, parce que finalement, c'est une philosophie, c'est une façon de voir la vie, la pédagogie freinée. Donc je pense qu'il y en a quand même plus que ce qu'on ne croit. Mais ce qui est difficile, c'est quand même tout ce cadre bureaucratique qui est très très pesant, les programmes qui sont très lourds et qui nous mettent une pression, qui nous mettent soit en porte-à-faux, en questionnement, est-ce que si je continue comme ça, ça va aller par rapport à l'institution. Donc à un moment donné, il faut oser et se lâcher et se dire que la priorité ce sont les enfants et puis que finalement on n'est quand même pas on n'est pas si loin de ce que nous demande l'institution parce qu'au niveau des connaissances le contenu du programme ils sont transmis largement aussi bien que dans d'autres écoles. Oui, c'est vraiment une philosophie, c'est vraiment la reconnaissance de la place de l'enfant en tant qu'auteur et une place du maître en tant qu'accompagnant qui se met dans les pas de l'enfant pour le pousser vers le haut, pour l'aider à grandir.
Nous allons entendre Célestin Freinet expliquer en 1958 combien la démarche de sa pédagogie, appelée pédagogie Freinet ou pédagogie de l'école moderne, sa démarche donc va plus loin qu'une pratique pédagogique innovante, elle va plus loin car elle prépare les enfants à ne pas devenir des singes savants et des bénis oui-oui.
Moi je pense que l'individu s'adapte toujours trop au régime, l'école s'adapte toujours trop aux nécessités administratives ou autres. Nous n'avons pas à faciliter cette adaptation. Il y a au contraire quelque chose que nous devons faire, c'est, garder pour les individus et pour les éducateurs ce sentiment d'aller un peu à contre-courant de temps en temps. Il faudrait bien que nous habituions nos enfants à remplir leurs fonctions de citoyens plus tard. Et remplir les fonctions de citoyens, cela veut dire avoir le droit, le courage plutôt, dans une association, dans une assemblée, de lever le doigt pour protester contre ce qui se fait, pour donner son point de vue, même si on sait que ce point de vue n'est pas celui des autres, si on sait qu'il contrarie les habitudes courantes. Il faut avoir ce courage qu'ont tous les instituteurs de notre mouvement de présenter des solutions nouvelles. Nous habituons nos enfants à savoir se critiquer et à savoir critiquer les autres. En ce sens qu'on pourra dire l'école qui a formé ses enfants a bien rempli son rôle. Sinon, nous n'aurons formé que des bénis oui-oui, nous n'aurons pas préparé les générations de demain.
Aujourd'hui, et encore comme il y a 60 ans, il n'est pas aisé de pratiquer une pédagogie qui s'affranchit des programmes, des évaluations, de la compétition imposée aux enfants. Dans le sud Aveyron, du côté de Millau, une enseignante subit de nos jours les foudres de son administration. Et comme la pédagogie freinée s'apparente plus à une philosophie qu'à une collection d'outils et de pratiques, elle ne fiche donc pas ses enfants sur bas élèves, respectueuse qu'elle est de leur liberté. Les fourches codines de l'éducation nationale sont toujours là, et passer en dehors est encore et toujours très compliqué.
Cette émission lui est donc dédiée, ainsi qu'à Pierre et Marie-Louise Cabanne. Elle est aussi dédiée à tous ceux qui, aujourd'hui encore, inventent une nouvelle pédagogie soucieuse de la liberté, l'égalité, la laïcité, l'autogestion et le forgement de la personnalité de l'enfant. Les Michel Collot, Véronique Descaires, Michel Duquit, Didier Muguet, Erwan Redon. Petite racine qui forme un rhizome politique des gens anciens, qui poursuit son chemin de transformation d'un système inégalitaire, qu'il soit social ou éducatif.
Merci à Mariette Leclerc et à Karine Alibert pour leur témoignage. Merci aussi à Dany Joulier pour son aide discrète mais toujours efficace. Vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez aussi de nombreux liens qui vous renverront sur les travaux pédagogiques passés ou en cours qui ont été évoqués dans cette émission. Les illustrations sonores choisies par Mariette Leclerc sont « Il suffirait de presque rien » interprété par Serge Reggiani, « Les feuilles mortes » texte de Prévert et musique de Cosma interprété par Yves Montand, « La Java des bombes atomiques » de Boris Vian interprété par Serge Reggiani.
Nous avons aussi entendu « La vie d'écolier » d'Aldebert et interprété par lui-même. La musique du générique est de Zara Graff.
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.